attaquer avec Philippe le module 3 de ce cours consacré à Azure Key Vault. On a vu dans les modules 1 et 2 tous les principes et tout ce qui va nous permettre de construire des solutions intéressantes avec Azure Key Vault. Et on va voir à partir de ce module 3 un certain nombre de scénarios concrets.
De mise en œuvre et d'utilisation. Exactement.
Exactement. Autour d'une application fictive qui va nous servir de support. Donc dans ce premier module de démonstration concrète, on va s'intéresser à la gestion des certificats dans les VM,
donc
dans les machines virtuelles.
Comment j'injecte en fait des certificats dans les VM de façon au travers du Resource Manager d'Azure sans avoir à stocker des mots de passe par rapport à des PFX et autres. Donc s'appuyer directement sur les coffres de clés comme on l'a vu.
Voilà, imaginons par exemple le certificat SSL d'un site web.
Exactement, alors, et pas forcément d'ailleurs uniquement, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui on a par exemple notre organisation, Litware, qui a des certificats, qui a des applications qui sont en local, mais des applications qui sont dans des machines virtuelles. Ces applications utilisent aujourd'hui, pour le site web, comme tu le mentionnes Pascal, des certificats pour la connexion TLS. Ils utilisent également un certain nombre de secrets applicatifs pour différentes chaînes de connexion ou autres. L'avantage aujourd'hui, c'est que dans la configuration courante, toutes ces clés, dans notre scénario hypothétique, toutes ces clés sont gérées dans un boîtier HSM. Donc si maintenant on imagine la même société qui souhaite déployer ses applications dans Azure, et finalement c'est un peu la trame de tous les modules qui vont venir, on va y aller progressivement. Le premier point qui se pose, qui est de dire, j'utilisais les certificats qui sont dans ma VM, comment je fais la même chose et en garantissant que finalement, à part les seules personnes d'un point de vue responsable de la sécurité, par exemple, que seules ces personnes-là ont accès aux mots de passe ou aux clés privées, garantir cette notion-là, comment je fais pour reproduire le même type de choses. De la même façon, le deuxième point en gras, c'est aussi préparer un peu la suite, parce qu'on mentionnait dans le module 2 que les permissions, les permissions dans le contexte de la politique d'accès à un coffre de clés, c'était quelque chose qui était donné sur la base des principaux de sécurité au niveau d'un répertoire Azure Active Directory. Ça peut être des utilisateurs, ça peut être des groupes d'utilisateurs, mais dans des contextes de DevOps, où typiquement je vais avoir des services ou des applications que je vais déployer, je n'ai pas forcément derrière une notion d'utilisateur, j'ai plutôt un principal de sécurité qui peut être typiquement l'application que je vais décrire comme telle dans l'annuaire Azure Active Directory. Et de base, ce qui va se passer, c'est que par rapport à ça, l'accès qui est généré par défaut en termes d'un principal de sécurité, c'est que je vais faire une référence pour obtenir finalement un jeton d'accès. Je vais pouvoir me servir de cette application Azure Active Directory pour réaliser l'opération souhaitée auprès du coffre de clés. Et pour ça, j'ai besoin d'un jeton d'accès. Ce jeton d'accès, je vais me servir de l'identité du principal de service qui est derrière l'application. Et par défaut, j'ai une notion d'identificateur d'application avec un secret associé. Mais s'il faut mentionner quelque part le secret, je reviens à la case départ, parce que quelque part, je vais aller stocker un secret dans le coffre de clés. Et je vais dire, c'est bien le coffre de clés, ça vous évite d'avoir les secrets en clair dans l'application, mais quelque part, finalement, dans le processus ou dans un fichier de configuration, j'ai à mentionner le secret de l'application qui permettra d'obtenir le jeton d'accès pour accéder au coffre de clés. J'ai repoussé l'étape d'un cran.
Mais donc finalement, j'ai authentifié l'application d'une manière sécurisée.
Donc en fait, on peut faire en sorte d'utiliser une authentification par certificat. Voilà. Et d'où cette notion de pouvoir en fait charger dans la VM ou mettre à disposition du Resource Manager en fait le certificat avec sa clé privée, de manière à ce que l'opération soit faite à partir simplement d'une référence d'URI, mais pas avoir de secret d'application en tant que tel.
D'accord.
Donc avoir véritablement une authentification de bout en bout, une authentification par certificat, et de plus avoir, en l'occurrence, de secret à écrire quelque part. Donc ensuite, c'est simplement le fait que je dispose bien de la clé privée dans mon magasin, par exemple, de machines, pour réaliser l'opération d'authentification, mais il n'y a plus de secret.
Voilà.
Donc à la place du secret, j'ai finalement l'empreinte de mon certificat, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait public, donc il n'y a pas de problème en tant que tel. Dans ce cheminement-là, ce que l'on verra dans les autres étapes, c'est potentiellement, par exemple, utiliser le chiffrement de disques de VM, SQL Server ou Linux qui s'appuie sur Key Vault dans ce contexte-là pour faire en sorte que la machine virtuelle que je déploie et ses disques qui soient chiffrés et les clés qui permettre de chiffrer ces disques soit protégé par KeyVault, voire même en ayant l'utilisation d'une clé de chiffrement de clé qui permette de faire finalement une hiérarchie par rapport à ceci. Ensuite, utiliser potentiellement des secrets applicatifs, ce sera un module qui suit, et finalement, utiliser aussi des clés dans ce contexte-là. Donc finalement, reproduire ce qui est fait en local de différentes façons, mais avec éventuellement une certaine complexité, finalement le montrer au gré des modules, comment on peut le faire finalement de la même façon. Une fois qu'on a compris le principe, c'est de mettre les éléments de configuration qui vont bien, mais pas de complexité particulière. Avoir en fonction des modules, c'est des personnes qui nous regarderont qui pourront juger au final, mais en tout cas, c'est la position ou la thèse que l'on souhaite défendre ici et permettre derrière un certain nombre de capacités en termes de mise à jour, de clés, de secrets, de retrait en termes de désactivation ou de suppression et également de capacités de passage à l'aisselle ou de redondance en utilisant les possibilités d'avoir une version primaire secondaire dans Azure au niveau d'une même région ou pouvoir utiliser de multiples régions. Donc on va retrouver ce cas d'usage finalement au travers des différents modules. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour l'introduire dans ce module 3. On ira beaucoup plus vite dans les suivants, on va se trouver dans l'opération qui suit.
Oui.
Voilà, donc retenez bien le schéma directeur, si je puis dire. Et ici, on va plutôt s'intéresser à finalement comment j'injecte des certificats.
Alors, donc on peut voir sur ce graphique le principe général de cette opération sur le certificat.
Donc l'idée, c'est...
On part de fichiers PFX, un peu comme on a vu tout à l'heure
avec
ta première démonstration, avec son mot de passe. Donc comment on va l'envoyer dans le KeyVault ?
Donc le charger, ça va être quelque chose d'un peu similaire. Donc le point qui est à noter ici, c'est une propriété qu'on avait listée, Pascal, si tu te souviens, du coffre-fort, qui était l'Enable for Deployment. Donc en fait, on autorise le Resource Manager à pouvoir utiliser cette information pour la déployer. Et la déployer où ? Quand l'opération est faite au travers du portail ou en PowerShell ou au travers d'un modèle. Donc si on est sur un modèle, ça suppose d'avoir l'Enable for Template Deployment. Et derrière, de faire en sorte que le Resource Manager en fait, puisse injecter le certificat. Donc par rapport à ceci, je pense que tu auras deviné qu'on ne va pas pouvoir stocker dans la pratique le certificat comme clé. Parce que tu te rappelles qu'une fois qu'on a stocké une clé dans un coffre-fort, on ne sait pas la relire. On peut réaliser que des opérations.
Les opérations ne se font pas dans le KeyVault, elles doivent se faire.
Voilà, ce dont il y a besoin, c'est la clé privée dans le magasin machine, si on est sur une machine Windows Server. Donc en fait, tout le principe du scénario, et le point important à comprendre ici, c'est que ce certificat associé à son mot de passe, enfin le PFX associé à son mot de passe, on va le stocker en fait dans une structure particulière sous forme de secret.
Exactement.
Et comme on peut relire un secret,
Voilà.
Comme si on avait la permission, là on a intérêt, ça va permettre en fait d'exploiter cette structure qui contient toute l'information et ensuite de pouvoir l'injecter. Voilà, c'est simplement le point important à noter dans le scénario.
Ok. Au final, donc on a deux acteurs principaux dans l'histoire, dans le scénario. On a le responsable de la sécurité qui va gérer l'ensemble du processus consistant à envoyer dans le coffre de clé le PFX du certificat.
Bon, plus le cycle de vie.
Le cycle de vie du certificat, tout à fait. Et puis notre ami, soit développeur, soit Ops, soit DevOps, qui va consommer en fait ce certificat dans Azure KeyVault pour l'importer dans sa machine virtuelle qu'il est en train de déployer.
Voilà, et en fonction de l'usage, simplement les informations qui sont transférées, dont tu as besoin le second acteur, donc le dev ou le Ops ou les deux casquettes en même temps.
Oui.
Donc avoir le nom du groupe de ressources, on oubliait sur la slide, mais bien évidemment celui du coffre de clés, le nom
l'URL du secret
pour le certificat, et puis sur les scénarios où je vais me servir en fait de cette information pour m'authentifier auprès du coffre de clés en allant un peu plus loin, au-delà de l'injection, c'est ce qu'on verra dans le module 4 en fait dans la pratique, le besoin d'avoir l'identificateur du principal de service qui correspond à l'application Azure AD qui a eu des permissions vis-à-vis du coffre de clés au travers d'une politique d'accès, et dans ce contexte-là, l'empreinte du certificat qui est utilisée de manière à pouvoir utiliser la clé privée associée pour pouvoir s'authentifier dans Azure AD, obtenir un jeton d'accès au sens au 2 du terme pour accéder en fait au coffre de clés.
D'accord. On a bien compris. Et donc, on va voir ça tout de suite en pratique. Alors pour cette démonstration, on va d'abord dérouler un petit peu sur ces slides, quelles sont les principales commandes qu'on va utiliser et puis on va les exécuter
ensemble. Donc la connexion à l'abonnement, on l'a déjà fait précédemment, donc on passe. Hein. La création d'un groupe de ressources, c'est exactement la même chose. Hein. Mm-hmm. Donc ça, on l'a vu. La création du coffre de clés, comme précédemment, à ceci près que l'on a le petit paramètre derrière, Enable for Deployment. Et où on pourrait rajouter, si on veut utiliser les templates ARM, l'Enable for Template Deployment. Donc potentiellement les deux petits flags derrière. Exactement la même chose si on veut s'appuyer sur la version premium, sauf que là, par défaut, on utilise la version soft. Donc là, il faut préciser ici le SKU premium.
Oui, SKU premium. Donc tout à l'heure, tu avais déjà créé le coffre de clés.
J'avais créé un groupe de ressources sans le... Oui, mais on était dans une... On l'avait appelé MVR, si tu te souviens.
On a changé un peu le nom. Donc on va recréer.
Voilà. Ce que je te propose, c'est peut-être voir simplement le certificat après. On va peut-être faire quelques étapes. Donc... Voilà, donc là c'est l'aspect encodage du certificat en tant que du PFX en l'occurrence. Hein. Donc j'ai mon fichier PFX, j'ai le mot de passe qui permet de déverrouiller le fichier PFX. Donc j'ai un premier encodage en fait. L'idée c'est d'encoder le certificat en base 64, le PFX en base 64. Une fois que j'ai réalisé ces opérations, c'est de créer une structure JSON dans laquelle je vais avoir en fait en tant que data la partie encodée du PFX. En type, c'est un PFX et le mot de passe associé. Et ensuite, j'encode à nouveau tout ça en base 64.
D'accord.
Et c'est finalement le résultat de tout ça qui est la valeur de mon secret. Donc finalement, tu retrouves la dernière ligne qui était, si tu te souviens, l'exemple sur le password SQL. Quand j'avais là ce qui est mon $JSON encoded, tout à l'heure, c'était mon password 1, enfin mon pass@word1. Sauf que là, c'est une structure un petit peu plus complexe.
D'accord, il y a une double... Enfin, il y a plusieurs... Il y a deux fois une...
Il y a un double
encodage. Un encodage en base 64 qui n'est pas un chiffrement, qui est juste
un encodage
pour le transport.
Donc il y a un premier encodage du PFX en lui-même. Ce résultat, je le mets dans une structure JSON. La structure JSON, je la réencode en base 64. Et ensuite, j'ai ma conversion en chaîne sécurisée. Et c'est la valeur de mon secret. Donc, si on continue, on fera les opérations derrière. Donc, j'ajoute le secret comme précédemment. Donc, je fais un set Azure qui vaut le secret. Je dis, c'est le service, certes. Hein, je lui donne un nom et puis la valeur. Et puis, comme on le voit ici, pour avoir accès à la valeur spécifique qui a été rentrée, le dollar secret. Donc là, j'ai bien cette fois, comme précédemment, contrairement au module 2, j'ai bien mon dollar secret. Et si je fais un dollar secret.id, j'obtiens la valeur complète, en fait.
De l'URI de la dernière version.
Exactement.
Qui est la seule pour l'instant de ce secret.
Voilà. Donc à ce stade, en fait, j'ai chargé mon PFX sous forme de secret. Et ce chargement sous forme de secret, associé à mon PFX, j'ai également mis le mot de passe.
Donc les deux URL qu'on voit là, c'est la version courante, la dernière URL qu'on voit sur la slide. Donc c'est la version courante du secret.
Enfin
quand on ne spécifie pas la version.
Voilà, exactement. Sauf que là j'en ai un, donc la version courante est la même que bon.
Oui. C'est ça le principe.
C'est exactement ça le principe. Donc si on voit la suite, donc le chargement du certificat. Donc ici, l'opération, donc ajout du secret dans une VM qui existerait. Donc ça suppose ici d'avoir déjà une VM de chargée, dans cet exemple. Donc ici, elle s'appelle Edge 0. Donc ça suppose de... Ici, on va récupérer l'URI. Donc on fait cette fois, on va récupérer le secret. Tu me diras, on l'avait précédemment, c'est le secret.id, c'est simplement ce que l'on a ici. Donc on fait un get Azure qui vaut le secret avec le nom. Et ensuite, j'ai besoin d'avoir l'identificateur de la même façon du coffre de clé en tant que tel. Donc j'ai besoin d'avoir l'URI du certificat en tant que secret, le coffre de clé et... Ensuite, j'ai besoin d'obtenir une référence, donc c'est ce que va me donner le get Azure RM VM sur la machine virtuelle dans laquelle je souhaite injecter le PFX. Et là, je dis, j'ai une commande qui s'appelle add Azure RM VM secret. Mon premier argument, c'est la VM. Ensuite, je passe l'identificateur de mon coffre de clé. Je donne la destination, donc c'est le MINE, donc c'est le magasin machine de la VM.
C'est le moins certificate store ici.
Voilà, le moins certificate store MINE. Ouais. Et ensuite, je donne l'URL du certificat à injecter, donc qui est le chemin sur mon secret, donc ma structure JSON encodée. Et ensuite, ben, je fais un update d'Azure à RunVM.
Alors, on reconnaît un peu le mécanisme classique de modification de la config d'une machine virtuelle. On récupère l'objet machine virtuelle, on lui ajoute une caractéristique, en l'occurrence le certificat
sous forme de secret,
et on fait la mise à jour de l'objet machine virtuelle, et hop, ça va répercuter l'action sur la machine virtuelle elle-même.
En l'occurrence, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, comme on le disait, parce qu'elle est très naturelle et qui n'ajoute pas de complexité, au contraire, qui simplifie énormément les choses. Je te propose que l'on fasse déjà tout ça.
Allez, on va directement passer sur ta machine.
Donc, c'est le même type de script. J'ai dû créer le groupe de ressources, oui, à ce stade. Donc, cette commande a été exécutée. Donc, on va créer notre coffre de clés. C'est exactement la même
et
commande.
Cette fois-ci, en activant le pour déploiement, c'est ça?
Donc, à la fin de la ligne de commande, on a bien le enable for deployment. Alors, dans notre diapo, on avait un Litware 369, mais tu te souviens, dans le module 2, oui, on a montré qu'il existait déjà, donc on ne va pas recréer quelque chose. Donc, en fait, tu as enlevé le 369 de manière à pouvoir en fait recréer quelque chose de tout neuf. Hein. Oui. Voilà, donc là, ça a été créé, je ne le détaille pas plus, c'est la même chose que précédemment.
Hein. Alors, on est toujours en premium ou cette fois-ci,
tu es... Ah, tu veux quand même le voir,
Parce que je n'ai pas vu sur la ligne de commande.
Non, là, on était sur un standard. Il n'y avait pas ici le SKU premium. Hein. Donc là, on est juste sur un standard. Oui, c'est pour le bien de mon abonnement personnel, tu comprendras ça.
Ok, donc on va récupérer maintenant ton fichier PFX.
Donc voilà l'opération. Tu m'autorises à prendre le paquet cadeau au complet?
Oui, hein, on l'a vu dans la slide.
Non, il ne fallait pas. Hein.
C'est l'effet démo.
On va le faire gentiment. Donc là, c'est bon. Là aussi. Oui, ça
manque un guillemet. Oui, voilà.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, tu sais, il fallait.
Donc, ce qui ne marche pas, c'est gain content du file name moins encoding byte.
Mais ça, c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ok. Le PFX.
C'est mikey.pfx?
Non, c'est celui-là. Ça marchera mieux.
Ça marchera beaucoup mieux. Bon. Donc un petit F8 ici.
Et on va reprendre là. C'est beaucoup mieux. Hein.
Donc là, tu as lu le fichier.
Là, j'ai lu le fichier. Là, on l'encode. On va créer notre objet. Ça marche beaucoup mieux. Là, il fallait bien que les dieux de la démo nous abandonnent à un moment ou à un autre. Hein. J'espère que c'est fait pour la suite, Pascal. Ouais. On verra. Donc là, la conversion au final, qui était l'autre commande du module 2. L'ajout du secret. C'est fait.
Donc là, ça y est, le secret est dans le Key Vault. Hein.
Le secret est dans le Key Vault. Alors, en VM, je crois qu'on va vérifier, c'est pareil, avant qu'on ait des surprises. Ma machine s'appelle Edge 0, petite différence. Voilà. Donc ici, le chemin vers notre certificat, si on veut le lire. Donc voilà le chemin complet avec la version.
D'accord.
Notre coffre de clés.
Donc service cert, c'était le nom que tu lui avais donné.
Sauf erreur de ma part, mais bon, visiblement, j'avais prévu une version sans les moufles, mais c'est pas suffisant. Donc voilà notre chemin vers le coffre de clés. Mmh. On va récupérer. Oups là.
Oups.
Le chemin.
Donc là, on essaye de faire un get Azure RMVM.
Ah bah oui, c'est moi qui... J'ai été trop brutal dans...
Le resource group s'appelle toujours 309.
Oui, lui, le resource group n'a pas changé, en fait, je l'ai... Voilà, elle existait dans le...
Donc là, tu as ton objet machine virtuelle.
Voilà.
Tu vas le mettre à jour. Donc ça, ça doit être instantané. Voilà.
Et là,
et
en
c'est
fait,
maintenant, qu'on tu vas faire l'opération. Donc là, en principe, ça devrait prendre un petit... Ah.
Eh bien oui, dire. C'est le même motif, même punition.
Voilà.
Pascal.
Ça devrait prendre un petit instant quand même, parce que ça va être la vraie opération qui va se faire, là. La mise à jour de la VM.
Ah, je suis allé trop vite dans la suppression des noms. On dit, gagnons du temps, allons doucement.
Alors, en attendant, je peux peut-être tout simplement montrer...
Voilà, donc la phase
ah,
est OK.
Pardon, je vais revenir tout de suite.
Donc l'opération a été réalisée.
Ça a été
finalement
super rapide.
Pas si long que ça. Hein. C'est...
Donc est-ce qu'on peut voir dans la machine virtuelle
bah, c'est ce que je te proposais.
Si
hein,
le certificat.
Exactement, Pascal.
Ah, je crois que tu allais nous montrer le certificat en PowerShell.
On aurait pu le faire en PowerShell. Non, mais ça permet de montrer qu'on a tout déployé.
Oui, oui.
Donc,
on aurait vu que le SunPrint, donc plutôt PowerShell, ne serait pas été...
Ouais, c'est pour ça. J'ai... Voilà, donc en l'occurrence, c'est celui-ci.
Le étoile point...
Donc on a bien la clé privée. Il a déployé la hiérarchie.
Donc l'ensemble du contenu du PFX. Hein.
Voilà, exactement. Donc, c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai pas fouillé la version PowerShell, ouais. C'est ce que je voulais montrer. Donc là, on a quelque chose qui est opérationnel en fonction du contexte. Donc après, on peut imaginer que dans le process, on a configuré le serveur web de la façon qui va bien pour référencer ce certificat, etc. etc. Donc, mais le travail de vis-à-vis de ce scénario qui consistait à aller injecter dans une VM existante, en fait, un certificat, voilà une illustration concrète.
Donc ça, c'est fait par la fabrique de Azure.
Voilà, d'où le -enable for deployment.
Voilà. Sans aucun agent spécifique installé dans la machine virtuelle, c'est uniquement.
Voilà. Donc, le même type d'opération est réalisable, bien évidemment, aussi sur des machines Linux. Hein.
C'est important.
Oui. Donc pour le besoin de temps, on n'illustre pas les deux, mais c'est important de le noter. Donc ça ne sera pas dans le magasin de machines virtuelles, ça ne sera pas dans le magasin machine, mais non. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu la suite des opérations, parce qu'on a encore deux, trois petites choses à dire. Donc je parlais tout à l'heure de désactivation de ce secret, rappelle-toi le enabled, hein, donc il suffit de dire zéro, hein, ça devient false.
Okay.
Donc le certificat n'est plus utilisable.
Donc on modifie l'attribut pour,
le déploiement.
Pour dire enable zéro.
Pour une version, donc revient juste derrière, pour une version donnée. Hein.
Oui, on a le numéro de version ici, oui.
Voilà. Tout à fait. Donc on peut imaginer que par rapport à ces nouveaux PFX que l'on charge, on va associer la plage de vie par rapport à ces secrets, et puis en notant quelque part la version, et derrière pouvoir avoir ce type de gestion. Donc on a la possibilité d'utiliser directement, donc, pour réaliser ces opérations, de le faire avec directement un modèle. Donc on aurait besoin par contre du -enable for template deployment. C'est simplement la petite chose que l'on a. Hein. Donc je te propose que l'on continue.
D'accord.
Dans l'utilisation du modèle, on va être amené à proposer directement les URI qui vont bien, donc finalement rementionner un peu tous les éléments que l'on avait dans la ligne de commande. Mais donc simplement là, donc, il y aura les slides qui seront fournis dans les notes de diapo. En fait, on va trouver les liens qui vont sur ces pages.
Donc dans les paramètres du template, du modèle, ou dans le fichier.
Ici, simplement, ce que l'on va repréciser, soit je le fais au travers de l'interface graphique avec directement le bouton déployer dans Azure. Je peux le faire également, je peux créer un nouveau déploiement, donc un Azure RM Resource Group Deployment. Je donnais un nom à mon déploiement et ensuite cibler un groupe de ressources et ensuite donner simplement le lien, l'URI, en fait, sur le modèle. Et dans le cadre en fait du modèle, tu seras invité à préciser notamment l'emplacement, le stockage, le coffre de clés, le groupe de ressources, le secret à déployer, de manière à refaire les opérations précédentes.
Donc ça, ce sont dans l'exemple, 5 paramètres qu'il faut fournir au template. Ces paramètres, on peut très bien les inclure dans un fichier de JSON avec le même nom .parameters.json et puis l'inclure dans la ligne de commande.
Voilà, donc si tu rajoutes effectivement le parameters.json, tu fais bien le mentionner, ça ne sera pas proposé. Si tu es dans cette configuration-là, on va te demander les valeurs. Mais effectivement, très bonne remarque, Pascal, oui, c'était important de le préciser. Donc dans cette configuration, finalement, nos certificats avec leurs clés privées restent dans le coffre de clés jusqu'à leur injection dans la machine. Mm-hmm. Les certificats peuvent être gérés indépendamment des VM, on l'a vu.
Oui.
Gérer les versions dans ce contexte-là.
Ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui gèrent ces choses-là. Hein.
Voilà. Derrière, on va réduire finalement complètement le degré d'exposition, puisque finalement, on peut avoir une vraie séparation des rôles et confier en plus ça aux ressources managers les opérations. À partir du moment où le dev ou le ops ou les deux a les informations nécessaires en termes d'URI. Mais il n'y a plus le password du PFX, par exemple, en l'occurrence. Et on va gérer finalement en un seul et même endroit tous les certificats, en l'occurrence le coffre de clés.
Oui.
Après, rien n'empêche d'en avoir plusieurs dans différentes régions. Mais... Et puis derrière, effectivement, bonne transition, c'est la possibilité de refaire exactement la même chose dans différentes régions.
Oui, pour le passage à l'échelle et...
Exactement.
La disponibilité avec la redondance. Eh bien, Philippe, on a vu un premier scénario et on se donne rendez-vous donc dans le module suivant, le module 4, pour le scénario suivant.
Exactement.
À tout de suite.